France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Nouvel épisode ce matin de notre série sur la confiance. Que veut dire avoir confiance dans la monnaie ? Dans cette émission, nous allons évoquer un penseur important, Georg Simmel. Celui-ci a publié en Allemagne, en 1900, une philosophie de l'argent, qui, les décennies passant, est de plus en plus connue, travaillée, appréciée. Une œuvre majeure, on s'en aperçoit désormais. Pour Simmel, l'apparition de la monnaie exprime un état de confiance extrêmement grand des individus dans l'organisation sociale où ils évoluent. Et en retour, si l'on peut dire, la monnaie permet de stabiliser la valeur des choses, de la fixer dans le prix, ce qui engendre encore plus de confiance dans la société. Autrement dit, l'argent, sous la forme d'une monnaie qui elle-même constitue une valeur et une marchandise, est à la fois le résultat d'une confiance formidable et un stimulant supplémentaire de cette confiance. Nous allons analyser ce matin ce cercle vertueux de la confiance en nous demandant aussi, et malgré tout, s'il existe des risques qu'un si beau système s'effondre. Bonjour André Orléans.
Bonjour.
Vous êtes économiste, directeur de recherche émérite du CNRS, directeur d'études à l'EHESS. Vous faites partie de ces économistes qui tiennent Georg Simmel pour un penseur fondamental de la monnaie et de la valeur. Vous êtes l'auteur d'un livre publié au Seuil en 2011, L'Empire de la Valeur, et vous avez aussi écrit un article sur Simmel et la valeur, dont nous parlerons dans le collectif dirigé par Denis Thouars et Bénédicte Zimmermann, Simmel, le parti du tiers, paru aux éditions du CNRS en 2017. Et bonjour Louis Quéré, merci d'être avec nous pour un deuxième épisode de cette série sur la confiance. Vous nous avez parlé déjà de l'importance de Simmel pour penser en général la confiance sociale. C'était notre épisode d'hier. Aujourd'hui, vous nous parlerez plus directement de ce livre important, La philosophie de l'argent, 1900. Je rappelle que vous êtes sociologue, Louis Quéré, directeur de recherche honoraire du CNRS, auteur en 2024, donc tout récemment, d'un ouvrage intitulé « Avoir confiance », paru aux presses universitaires de France. Alors commençons, si vous le voulez bien, par quelques mots sur l'homme Georg Simmel, qui est là, c'est encore assez peu connu. On a déjà mis vraiment longtemps en France à traduire ses travaux. Il faut attendre les années 70, 80, 90. Alors que ce monsieur, assez inclassable, philosophe, sociologue, intéressé par la psychologie, par l'urbanisme, par mille choses, Georg Simmel, par la littérature, Simmel est né en 1858 et est mort en
1918.
En 1918, il est né à Berlin. Louis Quéré, il fait des études longue de philo, il deviendra, c'est le premier échelon de l'université en Allemagne private d'Otzent en 1885 jusqu'en 1901, mais il a beaucoup de mal à percer dans la carrière universitaire. Pourquoi ?
Il n'a eu de véritables postes universitaires que lorsqu'il a été embauché à l'université de Strasbourg.
Qui était donc allemande à ce moment-là.
Qui était allemande à l'époque.
On est avant la guerre de 1914 qui va redonner l'Alsace et la Moselle aux Français.
Après, effectivement, Simmel à Berlin évoluait, me semble-t-il, dans un milieu philosophique plutôt néo-conscien.
Il y a le renouveau autour de la pensée d'Emmanuel Kant,
voilà.
Et qui va servir d'ailleurs dans la manière de penser la société.
Tout à fait. Donc, il y avait là des gens qui réfléchissaient notamment sur la spécificité des sciences sociales et qui contestaient effectivement l'application des modèles des sciences de la nature aux sciences sociales. Et donc, des gens qui notamment réfléchissaient à ce que c'était que la connaissance en histoire, par exemple. Je pense que c'était le cas de Windelband qui était là.
Qui était un spécialiste de psychologie un peu expérimentale, clinique.
Tout à fait.
Et alors quand même sur la carrière, un mot, pourquoi a-t-il eu tant de mal, Simmel ? Il était soutenu par des gens comme Max Weber. Quel était le problème ?
Peut-être que la réaction des sociologues français est un peu éclairante là-dessus. Donc Simmel était exactement un contemporain de Durkheim, donc le fondateur de l'école française de sociologie. Et je pense effectivement que ces sociologues français n'ont pas été sensibles à l'apport de la philosophie de Simmel. Hein. Par exemple, Durkheim avait écrit en 1902 une recension sur la philosophie de l'argent.
Est-ce qu'il a rencontré un peu la sociologie allemande dans les années 1880. Durkheim a fait un voyage en Allemagne qui l'a marqué. Mais alors, c'est vrai que la manière de penser de Simmel n'a rien à voir avec le côté très scientifique, bourré de statistiques de Durkheim.
Voilà. Et donc, Durkheim, dans cette recension, caractérisait la philosophie de l'argent comme un livre bâtard.
Hein. Il n'a rien compris.
Et voilà. Donc, un mélange de... Voilà. C'est un livre de philosophie sociale qui mélange de l'histoire, de l'économie, de la psychologie, de la sociologie, etc. Et donc, Durkheim donnait comme la leçon à Simmel en disant c'est pas comme ça qu'on fait de la sociologie. Hein. Et donc, mais par contre, après, il est possible que dans les héritiers de Durkheim, par exemple, je pense qu'il semblerait que Marcel Mauss ait eu une attitude beaucoup plus compréhensive à l'égard de Simmel, qui soit même allé à Berlin le rencontrer et discuter avec lui.
Le mot, c'était une ouverture sur beaucoup de choses. Donc, il était moins rigide à beaucoup d'égards, même si Durkheim était génial. Voilà. Il était quand même moins rigide que son oncle. Hein. C'était son oncle. Voilà. Mais dans la carrière, bon, il faut quand même dire que l'intérêt de Simmel pour plein de choses. Il a écrit sur Schopenhauer, sur Kant, sur Nietzsche. Il a écrit des petits essais sur la ville, sur l'argent, sur la mode, sur les pauvres, sur le conflit, sur l'étranger. Il avait une méthode en quelque sorte impressionniste, ce qui s'apparentait à une non-méthode. Il s'intéressait à la littérature. Ça ne marchait pas bien, ça, dans l'université allemande. Oui. Et puis, bon, il était juif, ça n'a pas aidé.
Voilà, absolument.
Il faut comprendre que Strasbourg... Tout à fait. Ce n'était pas du tout le centre de l'Allemagne. Le fait qu'il soit nommé là-bas, c'était un peu pour le faire sortir.
Sans doute. Hein. Alors, ce qui est surprenant, c'est que par contre, les sociologues américains se sont très tôt tournés vers Simmel. Hein. Il y avait une sorte de tradition qui s'était établie chez les sociologues américains qui étaient d'envoyer leurs doctorants à Berlin et donc en les incitant de suivre les cours de Simmel.
Hein. Oui.
Et donc bon c'était notamment le cas des sociologues qui ont fondé la dite école de Chicago.
Hein. Et donc singulièrement Robert Ezra Park.
Voilà. Et donc Robert Park par exemple effectivement dans sa qui est venu en fait à la sociologie donc qui est l'auteur notamment de La foule et le public. Hein, ou sociologie et journalisme. Park est venu étudier à Berlin. Il avait d'abord fait une carrière de journaliste. Il avait presque 40 ans quand il s'est décidé à se former en sociologie.
C'est un retour vers l'académie et Simmel l'a beaucoup marqué.
Et donc il dit effectivement dans sa note autobiographique, ma seule formation sociologique, c'est celle que j'ai acquise auprès de Simmel. Hein, il a suivi le cours de Simmel pendant un an à Berlin.
Voilà. Et la notion de conflit est très
importante. Et donc ces gens-là, effectivement, ont acclimaté la pensée de Simmel, notamment à l'école de Chicago.
Alors André Orléans, la philosophie de l'argent, on va en parler, c'est un gros livre, assez difficile. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'économistes qui se sont intéressés à cela, ça vient, maintenant il y en a quelques-uns, vous en faites partie. Et il y a une raison à cela, que vous expliquez très bien dans vos travaux, c'est que vous pensez que Simmel a inventé une troisième conception de la valeur. Pouvez-vous nous parler des deux premières et de celle de Simmel? Qu'est-ce que c'est que la valeur, historiquement, pour les économistes?
Oui, juste un point préliminaire. C'est vrai que le livre « La philosophie de l'argent » est très difficile, avec des changements de ton, le type de curiosité que vous montriez. Donc, il s'occupe de l'histoire, en effet, il y a des passages sur l'épistémologie. Enfin, c'est un livre très, très touffu qui demande beaucoup de travail au lecteur.
Oui.
Alors, oui, je pense que un des apports de ce livre, c'est effectivement son appréhension, sa conception de la valeur. Et il faut savoir que la question de la valeur, c'est vraiment la question princeps des économistes, c'est-à-dire la question de savoir pourquoi les marchandises ont des prix, à quoi renvoie le prix. Et donc, il y a deux grandes réponses, on pourrait dire, à cette question. Donc, deux grandes théories de la valeur. La première, qui date d'Adam Smith et de David Ricardo, qui est de dire, si les marchandises valent quelque chose, c'est en proportion du travail qui a permis de les produire. On comprend bien, voilà. Et cette théorie a été reprise et retravaillée par Marx. Donc ça, c'est la première conception, la valeur travail. Et cette conception a été complètement critiquée et refondée. Et donc, c'est sur cette nouvelle théorie qu'on appelle théorie marginaliste. Alors, le terme est un peu barbare. En fait, c'est une théorie qui dit que la valeur des marchandises n'est pas la quantité de travail qui les produisent, mais est fonction de la satisfaction qu'ils apportent aux individus. On comprend, c'est aussi
l'utilité.
L'utilité. C'est comme ça qu'ils disent les économistes. Le fait qu'ils soient utiles, qu'ils apportent donc une satisfaction, chacun d'ailleurs la jugeant de point de vue subjectif. C'est pour ça qu'on parle dans ce cas-là d'une théorie subjective de la valeur, alors que la théorie de la valeur travail, on parle d'une théorie objective, puisque la quantité de travail est donnée objectivement.
Alors, qui s'intéresse à la valeur utilité? Il y a notamment quelqu'un qui s'appelle Karl Menger. Vous pouvez nous en parler, c'est un Autrichien qui écrit au 19e siècle, dont on a souvent pensé que Zimmel l'avait lu et aurait dû plus le citer, mais c'est pas votre lecture. À vous, vous nous expliquerez qui est Karl Menger.
Alors, Karl Menger fait partie de ces trois grands qui ont découvert cette nouvelle théorie de la valeur-utilité et qui l'ont fondée. Donc, c'est assez intéressant parce que, en effet, il y a trois économistes, donc Karl Menger, l'Autrichien, Louis Walras, le français, et Stanley Jevons, l'anglais, qui, entre 1870 et 1874, ont chacun publié un livre où ils montraient que la valeur était liée, en effet, à l'utilité des biens, et en fait à l'utilité marginale. Donc c'est une multi-découverte indépendante. Hein. C'est vraiment intéressant. Et c'est donc dans les années 1870, et il faut savoir que jusqu'à maintenant, cette théorie demeure la théorie dominante de la valeur. Hein. Donc elle a plus de 140 ans, et elle a été fondée, en effet, par ces trois chercheurs. Et Menger est un des plus évidemment dans l'ère germanophone. Menger a une immense réputation et en effet dans ses principes d'économie politique, il met bien en évidence ce rôle de l'utilité subjective. Et je dirais qu'il y a une confusion ou un malentendu à propos de Zimmel parce que lorsqu'il commence par parler de la valeur, il met en avant très fortement la question en effet de la satisfaction des individus, de l'utilité. C'est très présent dans le livre. Et donc, beaucoup de gens ont analysé, en particulier les économistes, oui. Ont pensé qu'en fait, c'était une branche du marginalisme voilà. De cette question de la valeur.
Et donc, on lui reproche un peu de ne pas l'avoir dit. Mais c'est normal qu'il ne l'ait pas dit, car comme vous l'expliquez très bien, pas du tout. Zimmel a inventé une troisième théorie de la valeur.
Exactement.
Il n'est pas utilitariste ou marginaliste, comme on dit.
Oui.
Alors, c'est quoi la valeur pour Zimmel?
Alors, pour lui, la valeur n'est pas liée, c'est ça l'idée centrale, c'est que la valeur naît du désir, si l'on veut, c'est-à-dire de la distance entre l'objet et le sujet.
Autrement dit, du problème du désir, si les objets sont très à distance de nous, très difficiles à obtenir, résistent à notre désir, ils valent davantage. Donc, si j'ai bien compris, ce n'est pas la jouissance ou la satisfaction du désir qui crée la valeur, le fait qu'on aime beaucoup cet objet, c'est le fait qu'il soit si difficile à se procurer.
Vous le dites parfaitement.
Merci.
Et donc,
mais j'ai du coup une autre question.
Allez, et donc, Zimmel dit par exemple qu'on n'a pas de difficulté, que la raison pour laquelle des biens sont difficiles à obtenir, c'est pas parce qu'elles sont précieuses qu'on a du mal à les obtenir, mais au contraire, qu'elles sont précieuses. Parce que on a du mal à les obtenir. Oui. Donc c'est la distance en fait, c'est le fait de devoir surmonter les obstacles qu'il y a à la satisfaction qui sont l'indice de la valeur.
Donc, mais comment se fait-il qu'on ait voilà c'est ça ma question qu'on n'ait pas pensé ça avant. Aujourd'hui quand vous demandez aux gens d'après toi pourquoi le diamant vaut plus que que du pain, par exemple, alors que c'est très, beaucoup plus utile, le pain, eh bien, la réponse, c'est... c'est rare, déjà, le diamant. Et puis, c'est difficile à travailler, ça demande beaucoup d'attention, mais il y a aussi une rareté. Et souvent, la première réponse naturelle, quand on réfléchit à ça, c'est de dire, la valeur, c'est la rareté, qui est exactement ce que dit Zimmel. La rareté, ça fait partie des raisons pour lesquelles les objets sont un peu difficiles à obtenir. Et c'est le premier à l'avoir dit. Avant, il nous parle de la jouissance, de l'utilité, du travail. Comment se fait-il qu'aucun n'ait pensé à cela avant lui ?
Juste un point quand même, c'est que le terme rareté, en fait, est très proche dans la théorie du terme utilité. Parce qu'un bien rare, c'est un bien utile, mais limité en quantité. Donc c'est une sous-catégorie des biens utiles. Quand on parle de rareté, l'élément d'utilité est tout à fait central dans la définition de la rareté, mais on ajoute un nouveau critère qui est important, c'est le fait qu'il soit limité en quantité. Valras, c'est essentiellement lui qui met ça en avant, pour expliquer par exemple que l'air, qui est fort utile, n'a pas de valeur parce qu'il est illimité. Vous voyez, c'est ce genre de problème qu'il s'agit d'examiner avec la rareté. Et donc, pourquoi
on n'en parle quand même pas. Là, il en fait un centre.
Parce que je pense.
Zimmel fait du problème de la difficulté à obtenir un bien le centre de la valeur.
Oui, mais je pense que la raison, c'est que il y a une confusion. On peut avoir une confusion entre la grandeur de la valeur, qui est combien ça vaut, et sa nature. Et je pense qu'on confond les deux. Marx faisait une très grande différence entre l'idée de grandeur de la nature, de grandeur de la valeur et de substance de la valeur. C'est pas exactement la même chose. Donc, l'idée de voir dans la satisfaction que donnent les biens l'idée de valeur est une idée très, très simple. On peut la critiquer et je la critique, mais c'est une idée très simple. Alors que ce qui est essentiel, c'est la construction intellectuel et conceptuel que Zimmel crée pour montrer que ça ne suffit pas à qu'il y ait de la valeur. Et son idée, c'est que sa scène, on peut dire sa scène originelle, c'est la scène de la jouissance d'un bien, dans laquelle il dit quand il y a cette jouissance d'un bien, donc qui est considérée quelquefois comme la source de la valeur, en fait n'existe ni l'objet, ni le moi. Tous les deux sont absorbés dans la jouissance elle-même. Et donc, l'acte de création de la valeur, c'est un acte de mise à distance du sujet et de l'objet, qui sont créés en même temps par ça. C'est cette mise à distance grâce ou à cause du manque à travers le désir qui crée cette distance entre le sujet et l'objet.
C'est l'or. Il est l'or, l'or de se réveiller. Monseigneur, il est 8 heures. Oui, oui, oui.
Il en manque une.
C'est Louis de Funès, vous l'aurez reconnu peut-être, dans La folie des grandeurs, le film de Gérard Houry de 1971. Et c'est vrai que ça correspond à notre vision assez répandue, que la monnaie tiendrait à sa convertibilité dans des métaux comme ça, comme l'or, qui sont très importants. Tout ça n'a pas beaucoup de sens aujourd'hui. On le sait bien, André Orléans, puisque depuis 1971, le dollar n'est plus convertible en or. Les monnaies flottent, il n'y a même plus de change fixe entre les monnaies depuis 1973. Et finalement, la valeur d'une monnaie n'a plus rien à voir aujourd'hui avec sa convertibilité en or. C'est vrai ça ?
Absolument, oui.
Et du coup, qu'est-ce qui fixe la force d'une monnaie ?
Eh bien, d'abord, ce qui est intéressant, c'est de voir que chez Zimmel, il y a les concepts qui permettent à penser cette monnaie totalement désubstantialisée. C'est vraiment... Lui dit que la monnaie, justement, est une promesse. Et il la compare même au chèque en disant c'est comme un chèque, simplement ça circule plus. Pourquoi c'est une promesse ? Parce que ce qu'il met bien en évidence, c'est que l'acceptation monétaire par quelqu'un si je décide d'accepter ou non la monnaie, excusez-moi, j'espère que ça ne va pas être trop compliqué, ça dépend, pourquoi j'accepte ou non la monnaie, ça dépend que autrui accepte la monnaie. Parce que je n'aurais aucun intérêt à me séparer d'un bien réel contre un signe qui n'aurait aucune valeur. Donc l'acte essentiel dans la structure qui définit le rapport monétaire, c'est l'anticipation du fait que les autres aussi vont accepter la monnaie.
Donc c'est la confiance, nous y voilà un peu, enfin on va décortiquer ce que ça veut dire. Rien à voir avec un métal par rapport auquel la monnaie se situerait. En 1900, alors que le système de Bretton Woods n'a même pas été inventé et donc, a fortiori, n'a pas encore été achevé, Zimmel, Louis Quéré, nous dit « La valeur de l'argent, de la monnaie, c'est ce qu'on projette en lui, c'est la confiance qu'on a dans les autres. » Nous allons creuser ces points pour mieux comprendre ce que ça veut dire. Je vous écoute, Louis Quéré.
Donc, effectivement, c'est la fameuse citation de Zimmel, hein. Il reprend la devise de la monnaie maltaise, non est sed fides, hein, non pas le métal, mais la foi. Hein. Et donc effectivement c'est la confiance, voilà, c'est la confiance dans cette monnaie, et surtout on y viendra tout à l'heure, cette confiance aussi dans la société, dans l'organisation sociale et dans le fait que tout le monde joue le jeu de certaine manière, c'est ce que André Ordian vient d'exprimer,
hein. Et donc tout le monde est d'accord pour dire que cette monnaie, alors pour des raisons qu'il va falloir expliquer, peut fixer les prix, dégager la valeur dont nous venons d'évoquer juste avant les fondements. Écoutez le texte donc de Zimmel dans La philosophie de l'argent, où il évoque cette inscription sur la monnaie maltaise et il en fait presque un fondement théorique.
L'inscription portée sur la monnaie maltaise, non pas le métal, mais la foi, désigne parfaitement comme partie intégrante ce supplément de foi sans lequel toute pièce de monnaie, même avec tout son pesant de métal, serait dans la plupart des cas incapable d'exercer sa fonction. Précisément, les raisons multiples et souvent opposées pour lesquelles on accepte une monnaie montrent bien que l'essentiel n'est pas dans leur force démonstrative objective. Dans quelques régimes d'Afrique, le thaler à l'effigie de Marie-Thérèse doit être blanc et propre. Dans d'autres, au contraire, poisseuses et sales, pour qu'on le tienne pour authentique. Mais d'autre part, il faut la présence de cette conviction. L'argent que l'on reçoit maintenant pourra être redépensé à la même valeur. Ici encore, l'indispensable et le décisif, c'est le non pas le métal, mais la foi. La confiance dans l'aptitude de la sphère économique à nous remplacer. Sans dommage. Le quantum de valeur que nous avons abandonné en échange de cette valeur intérimaire, la pièce de monnaie. Sans faire ainsi crédit de deux côtés, personne ne peut utiliser les pièces de monnaie. Seule cette double confiance confère à la pièce bien sale, presque méconnaissable, la mesure déterminée de sa valeur. De même que sans la confiance des hommes les uns envers les autres, la société tout entière se disloquerait. De même, sans la confiance, la circulation monétaire s'effondrerait.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Nous parlons du sociologue, philosophe Georg Simmel, de sa théorie de l'argent qui fait une place majeure à la confiance. Nous venons d'entendre un texte lu par Riad Kera, qui ce matin prête sa voix à Zimmel. Vous êtes économiste, André Orléans. Je crois que vous voulez commenter cette expression, l'inscription maltaise, non aes sed fides, non pas le métal, mais la foi.
Oui, c'est... Alors, il faut avoir d'où ça vient. En fait, non aes sed fides, c'était une inscription qui était faite sur certaines pièces d'une émission, en fait, maltaise, comme il était expliqué, qui provient de l'époque à la moitié du XVIe siècle, où la cité de Malte avait été entièrement détruite par le siège des Ottomans à cette époque. Et la question qui se posait, c'était la question de la reconstruction de la cité de Malte. Et celui qui était en charge de Malte, qui s'appelle Jean de Valette, qui a donné son nom à la ville, n'avait pas les ressources financières, n'avait pas le métal pour payer les ouvriers. C'est un chantier énorme. énorme pour payer les ouvriers. Mmh. Et donc, il a créé une monnaie, il a fait une monnaie qui était de cuivre. C'était des jetons de cuivre, donc avec une valeur intrinsèque très très faible. Et il a proclamé qu'il traiterait ces jetons de cuivre au pair avec les monnaies d'argent et d'or qui circulaient. Et donc, c'est pour ça qu'il y a écrit « non aes sed fides » parce qu'en fait, il n'y a pas de métal précieux dans les jetons. Et la chose extraordinaire, c'est que par sa gestion très, très précautionneuse, pendant 70 ans, ces pièces maltaises ont circulé au pair avec les pièces de métal précieux, d'argent et d'or. Donc là, je ne sais pas en fait si Zimmel était au courant de l'événement, mais on voit bien combien ça illustre sa thèse. C'est-à-dire que ce n'est pas la substance de la monnaie qui en fonde la valeur, mais c'est bien la confiance, les représentations qu'on investit dans cette monnaie. Et donc ça, c'est vraiment le grand mérite de Zimmel d'avoir mis en évidence cette forme de confiance.
Alors c'est quoi la confiance exactement, Louis Quiré ?
Je voudrais juste attirer l'attention sur le terme fides, parce qu'il a été... Il y a un très beau texte de Benveniste qui retrace l'évolution du sens de ce terme-là, donc on traduit par foi ou par croyance. Hein. Et donc ce que souligne le sens, donc fides est devenu plus ou moins confiance, mais le sens original du terme, hein, c'est l'idée que on s'en remet à quelqu'un. Et donc on attend de lui une protection. Et donc celui qui reçoit la fides, effectivement, va exercer une autorité sur celui qui lui a fait confiance, mais en contrepartie, il va lui venir en aide, hein, et donc il va apporter voilà, son soutien à celui qui lui a fait confiance. Donc il y a cette double idée qu'on va retrouver chez Zimmel, qu'on l'a évoqué hier dans le texte qui a été cité, d'un double engagement, hein, de celui qui fait confiance, donc qui s'en remet à un autre, mais que ça crée aussi une obligation pour l'autre, qui est une obligation une obligation de protection, hein, et une obligation de ne pas trahir aussi.
Mais alors, qui est l'autre ? Dans le cas de l'échange d'argent, on considère que la monnaie établit bien le prix, et qu'on est capable, par exemple, de faire cette chose qui, quand on y réfléchit, est un peu folle. Je ne sais pas, moi, échanger sa maison contre ce qui est devenu quasiment un jeu d'écriture, puisque le métal n'a aucune importance, et tout d'un coup, sur votre compte, il y a un certain nombre de milliers d'euros qui arrivent, voire de centaines de milliers d'euros, ça dépend des maisons. Et on se dit, c'est quand même fou, on lâche une maison, et puis on a juste un jeu d'écriture à la place. Ouais. Qu'est-ce qui fait que oui, ça marche, on fait ça? Je vous écoute.
Mais d'abord, en effet, voyez, il y a déjà cet exemple de la monnaie de cuivre. On verra peut-être plus tard, par exemple, l'exemple du bitcoin. Mais il faut savoir aussi, par exemple, qu'il y a des cartes à jouer qui ont servi de monnaie pendant des périodes assez longues au Québec, dans la province.
Des cartes avec des dames, des rois, des valets.
Exactement. Qui étaient des cartes à jouer qui ont sérieusement servi de monnaie pendant, parce que dans cette province, donc, d'Amérique du Nord, qui était au 16e, 17e, siècle, qui était donc sous souveraineté française, on interdisait les métaux précieux, parce que la France, d'ailleurs comme l'Angleterre, préférait garder ses métaux. Donc ils n'avaient pas de métaux, ils ne pouvaient pas frapper de monnaie. Et donc ils étaient fort ennuyés, et le gouverneur a eu cette idée d'utiliser les cartes à jouer qui avaient cette particularité, c'est qu'elles n'étaient pas produites sur place, parce qu'il faut des couleurs, etc., c'est compliqué. Les cartes à jouer avaient un certain... On pouvait les contrôler, parce qu'elles venaient de l'extérieur. Et donc, pendant très longtemps, les cartes à jouer ont été une vraie monnaie. Donc, on voit bien, je veux dire, comment il y a cette déconnexion par rapport à la substance de la monnaie. Alors, votre question est la question essentielle. C'est quoi cette confiance ? Eh bien, c'est que si vous suivez cette idée que mon acceptation dépend de l'acceptation des autres, vous avez une structure d'interaction qui est très étrange, puisque chacun dépend des autres et que les autres eux-mêmes font de la même chose. Donc, comment est-ce que je fais pour savoir s'il va accepter, étant donné que lui va être exactement dans ma même position ? Il va accepter cette monnaie seulement s'il pense que moi je l'accepte. Vous voyez, on est dans un jeu, qu'on peut appeler ça une structure autoréférentielle. Et dans ce type de structure, vous pouvez avoir aussi bien l'acceptation que le refus. Les deux sont possibles. Tout le monde peut accepter ou tout le monde peut refuser. Donc il y a un élément ici essentiel dans la possibilité de constitution de la communauté monétaire qui est justement... c'est quoi la réponse? C'est la confiance. C'est ce fait de pouvoir représenter la totalité sociale comme étant garante de la monnaie. Donc, c'est une opération, disons, cognitive, une opération sociologique qui conduit à construire une représentation de la monnaie sur laquelle il va avoir un accord collectif. C'est comme ça qu'on va réussir à instituer l'accord collectif autour de la monnaie. Donc, c'est en fonction des représentations acceptées que nous avons tous d'elle, évidemment.
Les représentations acceptées. Alors, je me tourne vers vous, Louis Quiré, parce que vous aimez citer, pratiquement en commentaire de Zimmel, puisqu'il y a vraiment du commun entre eux, un autre sociologue plus tardif, Niklas Luhmann, qui est auteur en 1968 de « La confiance, un mécanisme de réduction de la complexité sociale ». Et Luhmann lui dit, je cite, « Celui qui possède de l'argent n'a pas besoin de faire confiance aux autres. La confiance généralisée dans l'institution de l'argent remplace alors, par un acte global, les innombrables témoignages individuels de la confiance. » D'où ma question, zimmelienne, si j'ai bien compris, enfin, c'est bien l'enjeu de Zimmel, posé par Zimmel. On fait confiance à quoi, si ce n'est pas aux autres? Pouvez-vous préciser dans quoi nous faisons confiance?
Tout à fait. Et chez Zimmel, c'est d'ailleurs pas très clair, parce qu'effectivement, on a évoqué tout à l'heure son concept de foi, mais du coup, il y a une démultiplication des formes de confiance chez lui. Donc, on fait confiance à l'Institut des missions, on va faire confiance au gouvernement, on fait confiance à l'organisation sociale, on fait confiance à la société, et ainsi de suite. Donc, effectivement, c'est des types de confiance qui n'ont rien à voir avec la confiance interpersonnelle. Reste à savoir ce qu'on peut mettre exactement sous ces expressions-là. Faire confiance à l'organisation sociale, à la société,
c'est
faire confiance à une abstraction. C'est des choses abstraites. Donc,
il y a quand même il faut qu'il y ait des éléments concrets qui nous laissent penser que à la place de ma maison, je récolte, je sais pas moi, 500 000 euros, eh bien 500 000. Si avec ces 500 000 euros, j'ai envie de racheter une nouvelle maison quelques années plus tard, j'aurai quand même une maison aussi belle que celle que j'ai vendue.
Donc il y a l'idée chez Zimmel, effectivement, d'une sécurisation, donnée, effectivement, garantie aux échanges par le fait de... Bah, il parle d'organisation sociale, mais je pense qu'il y a tout un système d'institutions. Je pense que c'est le droit, les contrats, etc., les conventions qui entrent en ligne de compte pour garantir effectivement ce fonctionnement. Mais pour en revenir à Luhmann, donc Luhmann, il cite pas beaucoup Zimmel, mais bon, donc il traite la confiance dans l'argent comme la confiance dans un système. Et donc, son idée, c'est quand même que la confiance dans l'argent aboutit à une sorte de certitude. À une sorte de certitude, parce qu'on sait quelque chose, ce qui fonctionne. Lorsque les échanges marchent avec la monnaie, on n'a pas trop de questions à se poser. Et donc, il dit effectivement, c'est un équivalent de la certitude qui s'établit. Mais dans son esprit, à partir du moment où il y a certitude, où il n'y a plus d'incertitude, la confiance n'a plus de place. C'est-à-dire que la confiance n'est requise que là où il y a un saut dans l'incertitude. Et donc, ce qui souligne aussi, c'est qu'effectivement, dans ce genre de système, ça remplace effectivement la confiance interpersonnelle qu'il fallait faire aux partenaires d'échange dans un autre type d'économie. Dans une économie de troc, etc. Donc, effectivement, le développement de cette économie monétaire permet de faire l'économie de relations interpersonnelles de confiance.
Quand je vends cette maison à 500 000 euros, je n'ai pas besoin de créer un rapport interpersonnel de confiance celui qui va l'acheter. Ce dont j'ai besoin, en revanche, et on va écouter un autre extrait de La philosophie de l'argent de Zimmel, c'est d'espérer, d'être sûr en vérité, qu'il y aura quelqu'un d'autre un jour qui vendra sa maison pour cette pour cette valeur qui aussi. Est presque une écriture, j'ai 500 000 euros sur mon compte, ça va marcher pour moi aussi plus tard. Alors ça s'appelle l'escompte, la capacité à escompter. Escompte. En tout cas, c'est comme ça que s'exprime Zimmel, on l'écoute. Oui.
Le sentiment de sécurité personnelle qu'assure la possession de l'argent est peut-être la forme et l'expression la plus concentrée et la plus aiguë de la confiance dans l'organisation et dans l'ordre étatico-social. La garantie de pouvoir réutiliser l'argent que le souverain ou le représentant de la communauté assume par le monnayage des pièces ou l'impression de son sceau sur le papier, c'est d'escompter l'énorme vraisemblance que chaque particulier, malgré la liberté qu'il a de refuser l'argent, l'acceptera. Plus la sphère de validité d'une monnaie est vaste, plus celle-ci doit y voir une valeur forte. Au sein d'un groupe de dimension locale, il peut circuler un argent de faible valeur. Il en était ainsi déjà dans la culture la plus primitive. Au Darfour circulent à l'intérieur de chaque district des moyens d'échange locaux, ou tabac, échevaux de coton, etc. Mais la monnaie supérieure est commune à tous. Le vêtement, le bétail, l'esclavage. Il arrive que la monnaie de papier d'un État soit même limitée à une province. En Turquie, en 1853, on a émis des billets qui ne devaient avoir cours qu'à Constantinople. Des sociétés très restreintes et étroitement liées entre elles s'entendent à l'occasion pour considérer n'importe quel symbole arbitraire, les jetons compris, comme de l'argent. Cependant, l'élargissement des relations commerciales exige un argent de haute valeur, déjà du simple fait que la nécessité de l'envoyer à de grandes distances rend fonctionnelle la concentration de sa valeur sur le plus petit volume possible. Ainsi, les grands empires historiques, aussi bien que les États commerciaux aux sphères d'échange extrêmement vastes, ont été poussés à utiliser un argent d'une valeur substance relativement élevée.
J'aimerais votre commentaire, André Orléans, vous qui êtes économiste, sur cette confiance que l'on a dans une monnaie qui la renforce. Lorsqu'on a cette confiance, elle est forte, qu'on pourra acheter plein de choses avec, exactement comme on a récolté cette monnaie en vendant nous-mêmes des choses. C'est à la fois abstrait et puis très concret.
C'est tout à fait, oui. Et je pense que par rapport à la citation que vous citiez tout à l'heure de Luhmann, il y a un peu un jeu de mots, parce que en effet, on peut dire qu'on ne fait pas confiance aux autres, parce que lorsque vous avez cet argent et que vous avez vendu votre maison, vous ne pensez pas à telle personne qui va vous la racheter ou telle autre. C'est pas une confiance aux autres, parce que vous pouvez pas, les autres, vous savez pas comment ils vont agir.
C'est une confiance dans le système.
Et, oui.
C'est ça?
Exactement, on pourrait dire ça comme ça. Et Zimmel le dit de la manière suivante, il dit que dans le cas d'un échange, en fait, il y a une médiation, quand on a un échange, la médiation par la monnaie, et cette médiation, c'est qui? Elle représente quoi? Elle représente le corps social. On peut pas faire autrement que cette analogie. C'est le corps social qui se montre garant de la valeur que vous allez récupérer par à travers la vente. Donc, je veux dire, on est obligé pour penser la question monétaire de donner sens à des concepts comme le corps social, des formes objectivées comme la monnaie qui représentent le collectif, mais parce qu'ils représentent le collectif, ne sont pas simplement des individus. Donc ces formes sont un peu étranges. En effet, la monnaie est un peu étrange parce que c'est une abstraction devenue tangible. Oui. Et on a bien une confiance dans la monnaie qui, en quelque sorte, enchasse toutes les relations sociologiques interindividuelles, mais elles portent sur la monnaie, parce que on ne peut pas, comme je le disais, il n'y a pas de sens avoir confiance dans la milliers de personnes qui peuvent être à nouveau des acheteurs de votre bien. Donc c'est tout le problème, et je pense que le terme confiance, qui pose beaucoup de problèmes, comme le dit Louis Quéré, parce que elle n'est pas de la nature d'une confiance interpersonnelle, ce terme, c'est au fond la manière de conceptualiser, il faut prendre à l'envers, c'est la manière de conceptualiser cette relation que les individus établissent par rapport au corps social comme totalité. C'est ça qu'on va appeler confiance. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est différent de la confiance interindividuelle.
Donc, pour qu'une monnaie soit forte, nul besoin des États pour battre monnaie. C'est, c'est, c'est potentiellement même non indispensable, en tout cas.
Absolument.
Ça n'est pas utile. Il faut plutôt cette confiance complexe que nous avons évoquée. On peut utiliser un jeu de cartes si on n'a pas d'or, et on peut utiliser du cuivre et des bouts de papier. Ça n'a aucune importance.
C'est très important ce que vous dites, parce que justement, il est vrai que le garant normal de la confiance, c'est l'État. D'ailleurs, même Zimmel parle souvent de ça. Mais en effet, c'est qu'un cas de figure. C'est un cas de figure très fréquent, parce qu'en effet, l'État a cette potentialité de représenter lui-même la collectivité sociale. Mais vous avez raison que dans son concept, la monnaie, ce n'est pas l'État. La monnaie, c'est la cohésion du groupe des échangistes. Mmh.
Et donc, aujourd'hui, nous avons des monnaies qui, en effet, n'ont plus rien à voir avec des États. L'exemple qui vient à l'esprit, c'est le Bitcoin.
Et on en a eu avant. Par exemple, vous prenez les monnaies locales. Les monnaies locales sont... Alors évidemment, il y a des lois, c'est un peu compliqué, mais vous avez des monnaies locales qui... Il n'y a pas d'État, et c'est des régions ou des groupes qui forment des monnaies locales sans État. Dans l'histoire, vous avez aussi des monnaies de marchandes qui sont des monnaies de banquiers marchands qui les établissent eux-mêmes. Il y a énormément de cas où l'on voit que ce sont des communautés qui se constituent en émetteurs de monnaie. Et donc, on n'est pas obligé d'avoir un État et un État fiscal pour ça.
Au Room 77 à Berlin, on peut payer à partir de son téléphone portable avec des bitcoins. C'est une monnaie virtuelle développée par la communauté Internet. Elle n'est ni émise par une autorité centrale comme l'euro, ni contrôlée par un État. Jörg Platzer, le patron du Room 77, a été le tout premier commerçant allemand à accepter les bitcoins en 2010.
Nous acceptons les bitcoins d'abord parce que c'est un moyen de paiement numérique sans aucun frais. Nous avons l'argent tout de suite, pas besoin d'attendre des jours, et personne ne peut annuler le paiement. Ce sont des raisons purement pratiques. De plus, je pense que le bitcoin est l'argent du futur, et donc plus vite on s'y met, mieux c'est. Le bitcoin offre des possibilités d'échange et d'interaction économique qui n'existent pas avec notre système monétaire actuel. Par exemple, la comptabilité est transparente. C'est complètement nouveau. Vous pouvez savoir exactement où vont vos dons. Vous n'avez pas besoin de faire confiance à un slogan publicitaire.
C'était un reportage sur Radio France Internationale en décembre 2012, à peu près au début du Bitcoin, qui explique bien que c'est une sorte de nouvelle monnaie. Finalement, on pourrait dire que Zimmel ou Ikéré avaient anticipé tout cela. Le fait qu'il y ait des monnaies qui n'aient plus besoin d'être adossées à un État.
Tout à fait.
La question, néanmoins, je la poserai à l'économiste après, c'est celle de savoir si le Bitcoin est une monnaie, aujourd'hui, je veux dire, plus de 10 ans après. Une vraie monnaie, avec toutes les caractéristiques de la monnaie.
Je n'ai aucune compétence.
Mais vous, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est quand même sidérant que plus d'un siècle avant...
Oui, c'est-à-dire, effectivement...
Le caractère virtuel de la valeur de la monnaie qui repose sur une confiance... Elle-même, avec une dimension virtuelle, il faut virtuellement, nous avons confiance dans le fait que ça va rester stable, qu'il ne va pas y avoir une guerre, une révolution. Donc c'est très intello, en fait, le rapport à la monnaie. Zimmel avait dit tout cela.
Effectivement, son analyse de la monnaie est fondée sur l'idée d'une progression de l'abstraction et d'une progression de la symbolisation dans l'organisation des échanges. Et donc, chez lui, c'est aussi lié à une analyse de la modernité et de l'évolution sociale. Et donc, effectivement, il dit le plein développement de la monnaie dans l'économie marchande suppose une intellectualisation de plus en plus forte des relations sociales. Et donc, effectivement, on peut. Hein. Et donc, un écart de plus en plus par rapport aux moyens d'échange réels, et donc effectivement une abstraction de plus en plus grande, et on peut penser que le je sais pas le point de vue d'André là-dessus, mais
alors dans les matins de France Culture il y a deux jours, le 28 janvier 2025, Marguerite Caton interviewait l'économiste Natacha Valla, qui disait qu'aujourd'hui les trois grandes caractéristiques de la monnaie ne sont pas tout à fait remplies par le bitcoin, moyen d'échange, unité de compte, réserve de valeur. Peut-être que la confiance n'est pas entière dans cette chose-là. Et c'est pas vraiment une monnaie. Vous êtes d'accord?
Oui, je suis d'accord. Ce n'est pas une. Ça a beaucoup de caractéristiques. C'est très intéressant comme expérience. Ça aurait pu être une monnaie. De ce point de vue-là, ça nous intéresse. Mais en effet, ce n'est pas véritablement une monnaie. Et pour l'expliquer, c'est assez simple. Ce qui est fondamental dans la monnaie, c'est le fait qu'elle représente la valeur, d'après tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire qu'elle fonde un système de prix. Il y a des prix en euros, des prix en dollars. Il n'y a pas de prix en bitcoin. Les prix en bitcoin sont des prix en dollars qui sont transformés en bitcoin à travers le taux de change. Il n'y a pas un espace de valorisation des marchandises en bitcoin. C'est surtout, en fait, un actif spéculatif.
Ouais.
Et donc, ça n'a pas, en effet, ça n'a pas les caractéristiques fondamentales d'une monnaie. Néanmoins, l'opération Bitcoin est quand même assez incroyable.
Oui, quoi. Très Zimmelienne quand même. C'est-à-dire, oui, les théories de Zimmel s'appliquent plus d'un siècle après sa philosophie de l'argent.
Oui, c'est effectivement d'avoir réussi à construire ce système à partir de cet algorithme et d'avoir engendré une confiance à partir de cet algorithme est vraiment très très fort. Et je note quand même par rapport à ce qu'on vient de dire sur la question théorique, c'est qu'au départ il y a aussi une communauté. Ce qui au départ crée la confiance dans le Bitcoin, c'est l'existence d'une communauté qui s'y reconnaît. C'est la communauté de ce qu'on appelle quelquefois les crypto-anarchistes qui sont autour de cette notion de cryptographie, etc. C'est eux qui ont l'idée du Bitcoin. Et donc, on voit à nouveau comment, pour revenir sur cette question de la confiance, comment cette question de l'appartenance, le fait que derrière l'appartenance à une communauté monétaire, il y a vraiment une appartenance sociale, est à nouveau présent dans le Bitcoin, au sens où, au départ, c'est ça qui l'a fondé. Et donc, après, elle s'est diffusée. Mais ce qui est intéressant dans le Bitcoin, c'est l'autre sens. Simmel dit aussi que l'or et l'argent sont des monnaies fiduciaires. C'est-à-dire qu'il applique son modèle aussi à l'or et à l'argent. Il dit que ce sont des monnaies fiduciaires parce qu'elles ne valent elles-mêmes que par la confiance. Il dit des fois il y a eu en effet des cas de boycott de monnaies de métaux précieux. Donc la fiduciarité, le rôle de la confiance est tout à fait central.
Alors, pour finir, puisqu'on est presque au bout de l'émission, une fois qu'il y a cette confiance dans un système, dans sa stabilité, et que cela se traduit par une monnaie assez forte, alors peuvent avoir lieu encore des expériences de confiance encore plus grandes. Ça fait partie aussi de la théorie de Zimmel. Et par exemple, le fait qu'on fasse crédit à quelqu'un, là, Zimmel dit, on retrouve la confiance personnelle, là, un peu étrange, dit-il, ça ressemble un peu à la foi, la confiance en Dieu. Parce qu'en fait, on ne sait pas grand-chose des gens à qui on prête. De toute façon, Zimmel pensait que la religiosité, c'était une chose sociale. Et puis parfois, ça donne des religions. Est-ce que la monnaie, expression d'une confiance, donne l'occasion d'expériences de confiance et renforce tout un tas de phénomènes de confiance dans la société, Louis Quéré?
Il faudrait revenir effectivement sur la différence que fait Zimmel entre une escompte et le phénomène de la dimension de la foi. Effectivement, il intervient. Le paysan escompte une récolte s'il sème, parce qu'effectivement, ça s'est passé dans le passé. Donc, il y a un raisonnement par induction dont la conclusion n'est pas garantie. Mais donc, ça c'est un type de confiance, mais l'autre type de confiance, comme il dit, c'est le fait de croire en une personne, voilà. Et donc là, c'est plus... Alors, il y a quand même une problématique chez Zimmel qui est une problématique du savoir et du non-savoir. Et donc,
il y a de l'incertitude.
Voilà.
Et quand la monnaie est forte, elle permet d'affronter ces zones d'incertitude sereinement.
La confiance est un intermédiaire entre le savoir et le non-savoir. Savoir. Il y a toute une autre problématique qui est que dans les sociétés modernes, c'est l'anonymat qui règne. On ne sait plus grand-chose personnellement sur les autres, hein, mais la connaissance qu'on a des autres, elle existe quand même d'une façon plus objective à travers. On sait de quelle catégorie professionnelle il est, on sait de quel sexe il a, on sait quel âge il a, on sait quel statut il a. Et effectivement, ce type de savoir est encore possible dans une société où règne l'anonymat. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que effectivement, lorsqu'il parle de foi, il va introduire en fait la dimension de l'affectivité. On va être plus dans, parce qu'il dit, et hier on a lu le texte extrait de son essai sur les sociétés secrètes. Qui pousse encore plus loin, si on veut, cette idée qu'on retrouve dans Philosophie de l'argent, de la foi en une personne. Hein. Et donc, il va dire, effectivement, c'est un mouvement de la sensibilité, hein. C'est un mouvement de l'âme, donc c'est quelque chose de vraiment affectif. Hein.
Mais vous êtes un grand Zimmelien d'aujourd'hui, vous travaillez sur les affects, qui étaient probablement l'objet premier de Zimmel, derrière l'argent, derrière la question des femmes modernes, la question de la pauvreté, la question de l'étranger, ce sont des affects qu'il travaille.
Voilà. Et j'ai un autre point à ajouter, ce que montre cette idée de confiance dans la monnaie, c'est le caractère invisible de la confiance. Ça a été énormément souligné par par différentes sociologues ou philosophes. Hein. En fait, la confiance est un peu, et la confiance dans la monnaie est un exemple de ça. La confiance est un peu comme l'air qu'on respire. Hein. Et on n'en est pas conscience, mais on s'en aperçoit quand cet air se raréfie de certaine manière. Et donc, effectivement, cette confiance invisible, elle a ce statut qu'elle ne devient visible que lorsqu'il y a un problème qui se pose. Et donc, de cette manière, cette confiance, elle a un statut posthume. C'est-à-dire qu'elle n'apparaît que quand elle disparaît de cette manière.
Je vous laisse le mot de la fin, mais je suis désolée de vous demander qu'il soit court, André Orléans.
Oui, d'ailleurs, j'irais dans ce sens-là. Et d'ailleurs, on avait proposé, en travaillant avec d'autres économistes, d'appeler ça la déméfiance, en fait. Ah. Pas la confiance, mais la déméfiance, parce qu'en effet, c'est une situation dans laquelle, en fait, on ne se méfie plus. C'est pas qu'on fasse véritablement confiance, c'est qu'on fait comme si on était dans un statut normal, les choses se passent normalement, et en fait, on n'y pense pas. Donc, c'est comme ça. Je me suis trompé tout à l'heure, c'est Valras s'appelle pas Louis, mais Léon. Excusez-moi. Bon,
si vous savez le nombre de fois où ça m'arrive.
J'ai trouvé l'air conditionné dans l'automobile que j'ai loué. La ceinture de sécurité est en prime, on me l'a donné. J'ai fait installer la radio à crédit et en stéréo. J'ai un nouveau téléviseur avec les trois chaînes en couleur reliées au réfrigérateur qui peut aussi me donner l'heure. Se résume en ces mots, à crédit et en stéréo. Tous mes impôts sont prélevés sur mon compte bancaire si léger. Il reste alors dans mon chéquier des chèques en bois de peuplier qui sont dépensés aussitôt en crédit et en stéréo.
Eddy Mitchell, bien sûr, à crédit en stéréo, une chanson de 1974 sur son album Rocking in Nashville. Merci beaucoup Louis Quéré, André Orléans, pour vos analyses sur la confiance et l'argent. Les références de vos travaux sont précisées sur le site de notre émission. Nous donnerons aussi des références sur Zimmel, ce sociologue, philosophe dont nous avons parlé aujourd'hui. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, il nous présente quatre femmes philosophes un peu oubliées, quatre porteuses de lumière dans la nuit, dit-il aujourd'hui, Jeanne Delhomme. «
Comment Jeanne Delhomme interrogeait-elle la vie ? Au cœur du XXe siècle philosophique, en France, mais aussi en Allemagne et dans le monde, la définition de la philosophie elle-même se tourne autour de la question de l'existence, et même on pourrait dire de l'existence comme question. Autour de Heidegger et de Sartre en particulier, on définit la différence entre l'existence et la vie, c'est-à-dire entre un fait biologique d'exister et la question subjective du sens de cette vie, du sens de cette existence. On définit une véritable rupture entre ces deux expériences. L'expérience de la vie qui est étudiée objectivement par des scientifiques et la question subjective sur le sens de cette vie qui fait rupture, qui fait entrer dans ce que Heidegger puis Sartre appellent l'existence, qui deviendra l'existentialisme à travers une question qui vaut plus que toute réponse, une question qui est une méditation, une interrogation et non pas un donné scientifique et objectif. Mais on oublie souvent, parmi les grands philosophes qui ont étudié cette dimension de la question, du sens, de l'interrogation de la vie comme constitutive de la vie humaine et de la philosophie comme telle, on oublie une grande philosophe de l'interrogation et de la philosophie comme interrogation. Cette grande philosophe, c'est Jeanne Delhomme. Jeanne Delhomme qui est née en 1911, qui a publié en 1955 une thèse admirable, étonnante, sur Bergson. Bergson, philosophe de la vie, mais voilà qu'elle travaille sur vie et conscience de la vie, essai sur Bergson, elle travaillera aussi sur Nietzsche d'ailleurs, mais elle est surtout connue, et Emmanuel Lévinas par exemple lui rendait le plus grand des hommages à cet égard, pour des livres intitulés « La pensée interrogative », en particulier pour une pensée de l'interrogation. L'interrogation philosophique. Jeanne Delhomme est celle qui montre que la philosophie commence par une interrogation sur la vie, surgit de la vie, mais qui vaut comme remise en question radicale de la vie. C'est le tout, c'est le point de départ et le point d'arrivée de la pensée philosophique. C'est dans cette interrogation, dans cette réflexivité que se situe l'aventure de chaque grande philosophie. Oui, même les philosophies de la vie. Et donc, dans sa thèse sur Bergson, qui est un des plus grands livres sur Bergson jamais écrit, elle répète la philosophie de Bergson. C'est un livre difficile, c'est un livre de relecture, de réécriture, sans référence, sans notes. Ce qu'elle fait, c'est une relecture spéculative pour montrer que la philosophie de Bergson n'est pas, comme le croyait Sartre lui-même, par exemple, un positivisme de la vie, une biologie un peu améliorée, mais justement une interrogation subjective sur le vivant. Elle va chercher chez Bergson cette interrogation infinie qu'elle retrouve ensuite chez Sartre et chez beaucoup d'autres, et dans toutes les catégories philosophiques, dans ses livres personnels, spéculatifs, parfois difficiles, mais qui font de Jeanne Delhomme une des grandes philosophes tout court du XXe siècle, bien entendu, avec la question qu'on pourrait lui poser si nous l'avions par miracle autour de cette table, dans ces conversations. Jeanne Delhomme, pensez-vous vraiment que la conscience de la vie abolit la réalité de la vie ? Pourquoi vous êtes-vous intéressé si radicalement à Bergson et à Nietzsche ? Dans les volumes édités par Claire Salomon-Bayet, en particulier le magnifique volume épuisé malheureusement, Nietzsche et Bergson, l'interrogation sur la vie surgit malgré tout de la vie elle-même. Elle surgit peut-être de la rupture entre la vie et la mort qui précède la rupture entre la vie et la pensée elle-même. S'installer dans l'interrogation, comme vous le faites, Jeanne Delhomme surgit de Heidegger, au cœur aussi du XXe siècle, affrontant la spécificité de la philosophie. Cela ne doit-il pas nous ramener aux côtés des autres grandes philosophes lumineuses du XXe siècle face à la nuit, à la dualité plus profonde encore de la vie et de la mort ?
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Ludovic Auger. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Feulpin, Chaïma Giboire, Philippine de Bélois et Antoine Ravon. Antoine Ravon qui va voler vers de nouveaux cieux et qui nous quitte en milieu d'année, mais pour le meilleur. Antoine Ravon, merci infiniment pour tout ce que vous avez donné à cette émission et bon vent à vous. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.